VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 22 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sevulia. Les titres pour commencer, le commandant de la force française Barkhane accuse le groupe russe Wagner de prédation au Mali. En Guinée, la coalition FNDC appelle à manifester contre la junte au pouvoir. L'Afrique du Sud pourrait connaître son propre printemps arabe, met en garde son ex-président Thabo Mbeki. Un accord doit être signé ce vendredi en Turquie sur les céréales ukrainiennes et les engrais russes. L'ex-président Donald Trump doit être tenu responsable de l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, selon la commission d'enquête parlementaire. L'attaquant sénégalais, Sadio Mané, a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2022. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le commandant de la force française Barkhane, le général Laurent Michon, a accusé jeudi à Ouagadougou le groupe paramilitaire russe Wagner de prédation. Il a comparé ce groupe à un dealer de drogue dans sa façon d'agir au Mali. Jean-Roger Bion.
Le général Laurent Michon a affirmé que le groupe Wagner a utilisé le principe du dealer de drogue en offrant une première dose gratuite au Mali contre les méchants français. Selon lui, le code minier du Mali a changé et désormais, un certain nombre de dispositions ont été prises pour exploiter 3 sites d'or par Wagner. Cela s'appelle toujours, selon le général Michon, de la prédation sonnante et trébuchante. Concernant la décision de retirer Barkhane du Mali, il a assuré qu'elle n'était pas liée à l'arrivée de Wagner, mais à la fuite en avant de Bamako, qui leur a demandé de partir sans délai. La France, après 9 ans de présence au Mali, avait perdu près de 50 soldats. Le président Emmanuel Macron, en campagne pour sa propre élection, avait annoncé une réduction drastique de l'opération Barkhane. Bamako avait aussitôt accusé Paris d'abandon en plein vol. Puis il y a eu l'épisode de l'expulsion de l'ambassadeur français et depuis, les relations n'ont cessé de se dégrader. Le général Michon, qui a fait comme une tournée d'adieu dans la région, va passer par N'Djamena avant de retourner en France.
Par ailleurs, l'armée malienne a annoncé jeudi la mort de 3 soldats et 3 terroristes tués au cours d'une série d'attaques perpétrées dans le centre et l'ouest du pays, confrontés à une recrudescence des violences djihadistes. Dans un communiqué, l'armée a imputé les attaques de la matinée à la Katiba Massina, affiliée au groupe djihadiste Al-Qaïda. Ces attaques ont été signalées à Douanza ainsi qu'à Kolokani, à 120 km au nord de Bamako. On en a enregistré aussi dans les localités de Koro, Ségou, Bafo et Mopti, sans faire de victimes. Au Nigeria, 17 personnes, dont 5 policiers, ont été tuées mercredi soir dans plusieurs attaques armées perpétrées par une bande criminelle dans la province de Katsina, dans le nord-ouest, ont indiqué jeudi la police et un responsable local. Les forêts du nord-ouest et du centre du Nigeria sont infestées de bandes criminelles, connues localement sous le nom de bandits, qui tuent ou enlèvent des habitants après avoir pillé et incendié leurs maisons. En Guinée, une importante coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile a appelé jeudi à manifester contre la junte au pouvoir le 28 juillet dans le Grand Conakry et le 4 août sur toute l'étendue du territoire national. Le Front national pour la défense de la Constitution, bravant l'interdiction des nouvelles autorités, entend ainsi dénoncer ce qu'il appelle la gestion unilatérale de la transition par la junte, son mépris et son arrogance, ainsi que son refus systématique d'ouvrir un cadre de dialogue crédible pour définir les termes de la transition. Le FNDC parle aussi d'une instrumentalisation de la justice par la junte, son refus obstiné de publier la liste nominative de ses membres et de se soumettre à l'obligation de faire la déclaration de leurs biens selon un communiqué. L'ex-président sud-africain Thabo Mbeki a averti que son pays est assis sur une bombe à retardement et pourrait faire face à un soulèvement semblable à celui du printemps arabe déclenché par une révolte sociale. Le point avec Nanit Talani.
L'une de mes craintes, c'est que l'un de ces jours, nous allons avoir notre propre version du printemps arabe. Vous ne pouvez pas avoir autant de chômeurs, tant de pauvres, de personnes confrontées à cette anarchie et des dirigeants corrompus. Et un jour, ça va exploser, a déclaré M. Mbeki lors du service commémoratif en l'honneur de Jesse Duarte, la secrétaire générale adjointe de l'ANC à Johannesburg. M. Mbeki, qui a quitté ses fonctions en 2008 après avoir succédé à Nelson Mandela, a critiqué le gouvernement du président Cyril Ramaphosa pour son absence de plan de lutte contre la pauvreté, les inégalités et le chômage qui s'élève à plus de 34,5% et le chômage des jeunes qui avoisine 64%. Le président Ramaphosa n'était pas présent à ce service commémoratif. L'ANC au pouvoir doit choisir dans les prochains mois ses candidats pour les élections générales en 2024.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président américain Donald Trump a ouvert les vannes au désordre et à la corruption et doit être tenu pour légalement responsable de l'attaque du 6 janvier 2021. C'est ce qu'a déclaré hier soir le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole. Des détails avec Mohamed Oumfa.
L'ancien président républicain a essayé de détruire nos institutions démocratiques, a déclaré le démocrate Benny Thompson lors d'une audition en prime time qui boucle une série de présentations publiques des travaux de sa commission. Pour lui, tous les responsables de l'attaque, y compris à la Maison-Blanche, devront répondre de leurs actes devant la justice. Il faudra des conséquences sévères, sinon je crains que notre démocratie ne s'en relève pas, a ajouté M. Thompson. Deux membres de la commission ont ensuite présenté la journée du 6 janvier 2021 telle que vécue minute par minute par M. Trump, qu'ils ont accusé d'avoir failli à son devoir de commandant en chef en ne faisant rien pour empêcher ses partisans de semer le chaos dans le Capitole. C'est pourtant lui, insiste la commission, qui les avait convoqués à Washington le jour où les parlementaires devaient certifier la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle.
Signature d'un accord ce vendredi en Turquie sur l'exportation des céréales ukrainiennes et sur le plan énergétique, entretien entre le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman. Le point avec Nathalie Barge.
Le président russe et le prince saoudien ont discuté en détail de la situation sur le marché international du pétrole, l'importance de renforcer la coordination au sein de l'OPEP+ a été soulignée, a déclaré le Kremlin. L'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Mohamed Ben Salman intervient moins d'une semaine après une rencontre entre le président américain Joe Biden et le prince héritier d'Arabie Saoudite à Jeddah. D'autre part, la Russie et l'Ukraine vont signer un accord sur les exportations de céréales aujourd'hui. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres seront à la cérémonie de signature à Istanbul. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'adressera dimanche à la Ligue arabe au Caire. Il doit rencontrer son secrétaire général, Ahmed Abulgeit, et des représentants des 22 États membres. Dépendant des céréales ou des armes russes, les pays arabes n'ont jusqu'ici pas pris position sur l'invasion de l'Ukraine.
En Italie, le président Sergio Mattarella a dissous le Sénat et la Chambre des députés hier, provoquant des élections anticipées, Jacques Aristide.
Le chef de l'État italien invoque la situation politique actuelle pour justifier sa décision. Elle a été prise après la seconde démission du Premier ministre Mario Draghi, suivant la défection hier de trois partis importants de sa coalition lors d'un vote de confiance au Sénat. Pour le président Sergio Mattarella, la discussion, le vote et les modalités du vote ont démontré l'absence de soutien parlementaire au gouvernement et l'absence de perspective pour donner naissance à une nouvelle majorité. majorité. Selon lui, cette condition a rendu inévitable la dissolution du Parlement, qui est toujours la dernière option, ajoute-t-il. Les médias italiens avancent plusieurs dates pour les élections anticipées, le 18 et le 25 septembre, ou encore le 2 octobre. Le favori du scrutin à venir est la coalition dite de centre-droit, qui réunit Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, et l'extrême droite représentée par la Ligue du tribun populiste anti-migrant Matteo Salvini et Fratelli d'Italia.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Russie et l'Ukraine vont signer aujourd'hui en Turquie un accord sur les exportations de céréales en présence du président Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Il doit permettre une sortie par la mer Noire des céréales ukrainiennes bloquées et un allègement des entraves à l'exportation de grains et engrais russes. L'accord devrait faire baisser les prix dans le monde. La société minière australienne Sandans Resources réclame au Congo-Brazzaville plus de 8 milliards de dollars de dommages-intérêts pour le projet Mbalam-Nabeba à la frontière congolaise et camerounaise que Sandans n'a pas encore commencé à exploiter en raison de différends avec les deux pays. Brazzaville a révoqué le permis de Sandans en 2020 et l'a attribué à une autre entreprise. Le Congo a jusqu'à novembre pour répondre devant la Chambre de commerce internationale. Pour terminer, la société publique russe du nucléaire Rosatom a commencé la construction de la première centrale nucléaire d'Égypte depuis le barrage d'Aswan sur la côte nord. La centrale d'El Daba, estimée à environ 25 milliards d'euros, devrait avoir 4 unités d'une capacité de production de 1200 MW chacune, selon le communiqué publié par l'autorité nucléaire égyptienne.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Sadio Mané désigné joueur africain de l'année.
Oui, l'attaquant sénégalais du Bayern Munich a été sacré lors de la cérémonie des CAF Awards hier à Rabat au Maroc. Sadio Mané avait déjà remporté ce prix en 2019 alors qu'il jouait à Liverpool. Il a devancé son équipier en sélection et gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, ainsi que son ancien coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah. Pour Mané, c'est la récompense d'une année de travail acharné.
Ça a été une année vraiment exceptionnel, moi et mes coéquipiers, tout en d'abord gagner la CAN, qui n'était pas du tout facile. Et mais bon, je pense qu'on l'a réussi ensemble. Et après, comme je l'ai dit, j'ai changé de club. Et c'est au bon moment, et au club idéal. Donc, je suis très content et je suis excité de débuter la saison.
Sacre bien mérité, selon Amine Birouk, consultant sportif joint à Casablanca, au Maroc.
Il a gagné la CAN avec le Sénégal en étant le principal instigateur du premier sacre de l'Onda Teranga. Il a permis au Sénégal de se qualifier pour une deuxième Coupe du Monde consécutive. Et puis en club, il a réussi à atteindre la finale de la Champions League et à remporter la FA Cup et la Carling Cup. C'est un palmarès complet. Il a manqué peut-être un petit quelque chose avec son club pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. Mais sur le plan du rendement, de la régularité, des buts, des assists, de l'influence dans le jeu, de la personnalité, il n'y a pas photo.
Le Sénégal a été désigné comme la meilleure équipe de l'année. Et son sélectionneur Aliou Cissé a remporté le prix d'entraîneur de l'année.
C'est une récompense, j'ai envie de dire, que pour tous les entraîneurs. Une récompense en réalité individuelle, mais qui n'a rien à voir avec une récompense individuelle. C'est plutôt une récompense collective, parce qu'un entraîneur n'est jamais seul. Il est entouré aussi par un staff, un grand staff.
Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga. Le trophée du meilleur jeune joueur de l'année est aussi revenu au Sénégalais de Tottenham, Papa Sarr. La Nigériane Aziza Oshoala, qui évolue en club à Barcelone, a de son côté enlevé pour la cinquième fois le prix de joueuse africaine de l'année. Le Wydad Casablanca est le meilleur club de l'année et Mohamed El Chenaoui, gardien de but égyptien d'Al-Ahly, est le meilleur joueur africain interclub.
Athlétisme avec les mondiaux qui se déroulent ici aux États-Unis.
Wade Van Niekerk retrouve une finale ce vendredi. Solide en demi-finale du 400 mètres, le Sud-Africain disputera pour la première fois depuis 5 ans une finale mondiale sur le tour de piste. Sans affoler le chrono, il a terminé deuxième de sa demi-finale en 44 secondes 75. Revenu à la compétition en 2020 après une longue blessure, Van Niekerk a connu un début de saison 2021 encourageant avant d'être éliminé en demi-finale des derniers Jeux olympiques. l'été dernier à Tokyo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La cérémonie des CAF Awards 2022 a consacré donc le Sénégal dans plusieurs catégories. Le pays de la Teranga a gagné le titre de sélection africaine de l'année. Le sélectionneur Aliou Cissé est nommé meilleur entraîneur. Le jeune Pape Matar Sarr, nommé meilleur espoir. Sans oublier Pape Ousmane Sarro qui a planté le plus beau but de l'année. Enfin, l'icône nationale, Sadio Mané, est consacré meilleur joueur africain de l'année 2022. À Dakar, c'est une explosion de joie et de fierté, nous dit notre correspondant Seydina Abagui.
Et de deux pour Sadio Mané. Après le sacre de 2019, l'international sénégalais remporte son deuxième ballon d'or africain. Une consécration de plus dans le palmarès déjà fourni de l'enfant de Bambali. Pour Alun Gueye, amoureux du ballon rond, ce trophée va motiver un peu plus ses coéquipiers une fois sur le terrain.
Plus de. Ce sera en plus pour cette équipe nationale et ce sera aussi une motivation pour les autres joueurs qui seront sur le terrain, surtout les jeunes. Avoir un ballon d'or comme coéquipier, ça booste les performances.
Équipe nationale.
Même son de cloche du côté de son ami Babacar
Faye.
Avec l'ampleur de ce trophée de Sadio, maintenant nos adversaires vont beaucoup plus nous respecter. Et c'est un léger avantage que nous aurons sur eux. Donc c'est tout bénef, surtout qu'on gagne en marketing aussi.
Équipe au Sénégal.
Assis devant la pelouse du terrain Sénégal-Japon situé à Dakar, Alun Gueye admire le match qui oppose de jeunes bambins. Pour lui, avec ce nouveau trophée de Sadio Mané, les adversaires des Lions vont redoubler de vigilance et d'efforts face à l'attaquant sénégalais, ce qui peut être une charge pour l'équipe nationale lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar.
C'est sûr que d'un autre côté, c'est une charge pour l'équipe, surtout face à des adversaires comme les Hollandais qui connaissent bien Sadio. S'il est assez fort, il peut quand même s'en sortir.
Le Sénégal est aussi reconnu comme étant la meilleure sélection africaine de l'année, une distinction qui ne doit pas exclure le renforcement de l'équipe avant d'aller à la Coupe du Monde. C'est ce que nous confie Eliman Diouf, un fonctionnaire venu accompagner son fils au terrain de football.
Ils doivent encore redoubler d'efforts pour rester sur la même ligne et ne pas dormir sur le laurier. Donc il faut travailler dur, être sérieux. Si on peut se renforcer dans tous les secteurs, on doit le faire. Et voilà, ça va venir, Inch'Allah.
Lors de la cérémonie des CAF Awards, le Sénégal a raflé presque tous les trophées. Une consécration historique pour le football sénégalais et un motif d'espoir pour les supporters qui pensent que le Sénégal sera certes plus craint, mais que l'équipe devra aussi élever son niveau de jeu pour encore faire rêver tous les amoureux du ballon rond au Sénégal et dans le monde entier. Rendez-vous est donc pris pour le Qatar dans quelques mois pour la fête du football mondial. Seydina Abagui à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Moins d'un mois après le renouvellement de son mandat pour une année, la MINUSMA rencontre déjà des problèmes au Mali. Après le communiqué du gouvernement demandant à son porte-parole Olivier Salgado de quitter le pays, c'est au tour du mouvement Yéré Wolo, debout sur le rempart, de demander le départ pur et simple de toute la mission onusienne. Notre correspondant sur place, Mohamed Danioko, fait le point.
Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, vient de faire les frais de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'affaire dite des 49 militaires ivoiriens détenus par Bamako. Les autorités maliennes viennent de lui demander de quitter le territoire suite à son tweet qui indiquait qu'elle était informée de l'arrivée de ses soldats ivoiriens. Cette décision, selon l'analyste Mohamed Mamata Touré, s'explique par l'incohérence des tweets de Olivier Salgado.
Le porte-parole avait fait 3 tweets en l'espace de quelques heures, dont aucun des contenus de ces 3 tweets n'est le même. Dans le premier tweet, il disait que les autorités maliennes étaient informées. Dans le second, il décline l'appartenance des 49 militaires ivoiriens au contingent de la MINUSMA. Dans le troisième, il réaffirme maintenant que ces 49 militaires ivoiriens travaillent pour le contingent allemand de la MINUSMA. Donc la question que nous nous posons est qu'on doit croire en laquelle de ces versions et ne pas croire en laquelle.
Au même moment, le mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, dirigé par Adama Diarra, dit Ben Le Cerveau, membre du CNT, a demandé au cours d'une conférence de presse le départ de la mission onusienne du territoire malien. Drissa Mementa, chargé de communication du mouvement.
L'AMINUSMA, non seulement on tue la population civile devant elle, elle ne fait rien. En plus, elle tente également d'empêcher nos militaires d'évoluer sur le terrain avec des rapports bidons en essayant d'opposer les communautés les unes contre les autres. Donc nous avons tout simplement décidé, après avoir mis dehors les forces françaises, de nous lever pour également demander le retrait de l'AMINUSMA.
Pour Mamadou Traoré, président du parti Union en Kambolo-Dioungoma, le plus jeune candidat à la dernière élection présidentielle, les positions extrêmes ne sont pas la solution. Il faut travailler à trouver un consensus avec l'ensemble des partenaires.
Écoutez, nous sommes dans une situation diplomatique assez tendue entre la République du Mali et la République de la Côte d'Ivoire et aussi l'AMINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies au Mali. Pour notre part, le Mali n'a nullement besoin de rajouter aux multiples tensions qui existent déjà d'autres tensions. Et nous pouvons ensemble, et l'AMINUSMA et la Côte d'Ivoire et les autorités maliennes, trouver de façon diplomatique et à cette situation tendue. Et je dirais que le Mali, comme toujours, a besoin des partenaires. Et les partenaires aussi ont besoin de la République du Mali, car nul seul ne se suffit.
Depuis mercredi, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est en visite dans la capitale malienne. Cette crise naissante entre les autorités de la transition et l'AMINUSMA et la crise avec la Côte d'Ivoire feront certainement partie de ses échanges avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique. Bamako.
Au Cameroun, de longues files de voitures et de conducteurs s'étirent devant les stations-service à cause de la pénurie de carburant. Cette pénurie a entraîné des coupures de courant dans plusieurs villes et villages et paralysé le commerce. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
Un générateur alimente le moulin à farine de la boulangerie Obili, un quartier de Yaoundé. Métébon Youssouf, le propriétaire, dit avoir acheté le générateur mardi après qu'une grave pénurie de carburant a entraîné des coupures de courant qui ont paralysé son affaire cette semaine.
Tous les véhicules et motos qui distribuent le pain à Yaoundé et les villages environnants sont à l'arrêt faute de carburant. Nous avons acheté ce groupe électrogène, mais le pain que nous faisons à l'aide de ce groupe n'est fourni qu'à ceux qui viennent l'acheter à la boulangerie, car nos véhicules ne peuvent pas bouger. C'est donc très très difficile et nous survivons à peine.
Plusieurs conducteurs de motos et de voitures font la queue dans les stations-service. Cette semaine, le gouvernement a déclaré qu'il surveillait la situation et qu'il avait déjà déployé des forces de sécurité dans les stations d'essence au cas où la pénurie pourrait déclencher des émeutes. Antoine Essy est chauffeur de bus.
Les gens s'alignent pendant plus de 2-3 heures pour avoir le carburant. Là-bas, il y a les gens qui ont les bidons, il y a les gens qui ont les véhicules. Je voulais aller au village, je voulais consommer pour 40 000. On était obligé de me dire 10 000. J'ai même essayé de truquer en prenant dans cette pompe. Je prends pour 10 000. Je contourne encore, je reviens. À l'autre pompe, on me donne encore pour 10 000. Je ressors. C'est très difficile.
Selon le gouvernement, les coupures sont causées par cette pénurie, car la centrale thermique de 40 MW qui alimente Yaoundé a manqué de carburant. Le gouvernement a déclaré que de nombreux travailleurs ne sont pas en mesure de se rendre au travail, car leurs véhicules et les transports publics sont à court d'essence. La Russie fournissait plus de la moitié des importations d'essence du Cameroun et les sanctions contre Moscou n'ont pas aidé.
Dans un communiqué hier, le ministère camerounais des mines a déclaré avoir importé cette semaine 13 millions de litres d'essence super, 8,5 millions de litres de gasoil et 2,5 millions de litres de kérosène et promet que les quantités seront suffisantes dans les semaines à venir. Le gouvernement affirme avoir prévu 183 millions de dollars pour subventionner les produits pétroliers. Mais avec la flambée actuelle des prix, ces subventions pourraient s'élever à plus d'un milliard de dollars. Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Sommet des affaires États-Unis-Afrique à Marrakech au Maroc au programme de cette quatorzième édition des tables rondes et des rencontres entre une importante délégation américaine et des ministres et chefs d'État africains, mais aussi des décideurs des plus grandes multinationales. Objectif: favoriser les investissements et créer de la valeur économique. Précision de notre correspondant au Maroc, Robin Dussen.
Construire ensemble l'avenir, c'est le thème retenu pour ce grand conclave des affaires qui se tient depuis mercredi au Palais des Congrès de Marrakech. Un sommet qui va encourager l'investissement et les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique dans le secteur public comme dans le secteur privé.
L'Afrique est le continent qui a la croissance la plus rapide du monde. D'ici 2030, il y aura 1,7 milliard d'habitants en Afrique, ce qui représente un cinquième de la population mondiale.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui s'exprimait en visioconférence depuis Washington.
Il y a une demande croissante en alimentation, santé publique, éducation, technologie et en infrastructure. Mais à ce jour, il reste des obstacles, un accès limité aux capitaux, le coût élevé du financement et des goulots d'étranglement juridique et réglementaire. Tout cela fait partie des chantiers prioritaires en Afrique, sans oublier la crise du Covid, le changement climatique et l'insécurité.
En Afrique en particulier, dans le monde en général, la pandémie a fait des dégâts. La croissance mondiale devrait baisser de 5,7 points en 2021 à 2,9 cette année. Si certains y voient un désastre, d'autres préfèrent y voir une opportunité. C'est le cas de Shakib Alj, le président de la CGEM, le syndicat du patronat au Maroc.
Grâce à un développement technologique et une transition démographique rapide, le continent dispose d'un fort potentiel d'affaires qui malheureusement reste sous-évalué. Nous pouvons y répondre uniquement en créant toujours plus d'emplois. L'Afrique peut aussi compter sur d'importantes ressources naturelles avec un potentiel de transformation sur place. Ces atouts font de l'Afrique un continent non seulement compétitif, mais aussi du futur.
Ce fort potentiel dont parle le patron des patrons au Maroc, d'autres décideurs en sont également convaincus, Coca-Cola, ExxonMobil, Pfizer, Atijari, Wafa Bank, autant d'entreprises qui ont fait le déplacement dans la ville Ocre, de même que des chefs d'État africains comme le président de la RDC Félix Tshisekedi, du Rwanda Paul Kagame ou du Kenya Uhuru Kenyatta, autre acteur du secteur public, cette fois qui suit de près les échanges, la Millennium Challenge Corporation, la MCC, l'agence de développement du gouvernement américain qui a investi en Afrique près de 9 milliards de dollars depuis sa création en 2004 et qui continue d'accompagner ses partenaires sur le continent. Carrie Monahan est la directrice générale adjointe de la MCC au Maroc.
Nous sommes en train de piloter un projet dans le foncier industriel qui a beaucoup de potentiel au Maroc. Nous avons financé un projet avec le ministère d'Industrie ici pour signer les premières trois Public-Private Partnerships, PPP, pour des zones industrielles au Maroc. Et on estime que ça va créer 27 000 emplois.
Relancer la croissance économique en Afrique et avec l'Afrique. Voilà en somme l'objectif de cette grand-messe du commerce et des affaires qui se termine ce vendredi 22 juillet, mais qui va d'ores et déjà connaître un deuxième round. Le président américain Joe Biden a annoncé la tenue d'un nouveau sommet entre les États-Unis et le continent africain. Rendez-vous à la mi-décembre. Robin Dussen à Tanger pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnou et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.